Littérairement vôtre.
Carmen, je te salue bien bas. Je salue aussi bien bas, ça va de soi, les gens qui nous font le plaisir de nous écouter. Eh oui, je suis d'humeur badine aujourd'hui. J'ai envie d'humour, de tendresse, d'originalité. Tiens, je te lance un défi, Carmen. Trouve un auteur qui puisse unir ces trois qualités. Vas-y, nous t'écoutons, les auditeurs et moi. Sommes impatients d'entendre le nom de ce prodige de la littérature avec un grand L majuscule.
Moi, je veux bien te donner le nom d'un auteur, mais tu ne m'as pas donné ses qualités.
L'humour, la tendresse, l'originalité.
Ah, eh bien, moi, je vais te donner le nom d'un auteur qui réunit ces trois critères, Alphonse Daudet. C'est lui ?
Eh oui !
Oh, je suis trop forte. Alors, bravo. Tendez bien l'oreille et vous entendrez le chant des cigales. Alphonse Daudet naît à Nîmes le 13 mai 1840. Son père, Vincent Daudet, est tisserand et négociant en soierie. Sa mère, Adeline, est la fille d'un riche négociant en soie. Il passe la majeure partie de sa petite enfance à quelques kilomètres de Nîmes, puis il suit les cours de l'institution Canivet à Nîmes. Son père ferme sa boutique, la famille déménage à Lyon en 1849, où Alphonse entre en sixième. La ruine complète de son père en 1855 l'oblige à renoncer à passer son baccalauréat. Il devient alors maître d'études dans un collège d'Alès. Cette expérience pénible lui inspirera son premier roman, « Le Petit Chose », dans lequel il mène des faits réels et d'autres inventés, comme la mort de son frère. Désirant faire une carrière littéraire, il rejoint son frère Ernest à Paris en novembre 1857. Désargenté, il mène une joyeuse vie de bohème. Ses fréquentations douteuses lui valent de contracter une affection extrêmement grave, avec des complications dont il souffrira toute sa vie. En particulier une ataxie locomotrice qui l'oblige à marcher avec des béquilles. Il collabore à différents journaux, Paris Journal, L'Universel et Le Figaro. En 1858, il publie un recueil de vers, Les Amoureuses. La même année, il rencontre Marie Rieu, qui devient sa maîtresse et lui inspire le personnage du roman Sappho. L'année suivante, il fait la connaissance de l'écrivain Frédéric Mistral, début d'une grande amitié. La correspondance nourrie qu'entretiennent les deux hommes pendant près de 40 ans ne sera ternie que lorsque Daudet publiera L'Arlésienne et le roman Numa Roumestan, caricature du tempérament méridional. En 1860, il est engagé comme secrétaire du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III et président du corps législatif. Ce travail de secrétaire lui laisse beaucoup de temps libre qu'il occupe à écrire des contes et des chroniques. Les premiers symptômes de la syphilis apparaissent et son médecin lui conseille de partir pour un climat plus clément. Il voyage ainsi en Algérie, en Corse et en Provence. Le duc de Morny meurt subitement en 1865, ce qui provoque le tournant décisif de la carrière d'Alphonse qui se consacre alors entièrement à l'écriture, comme chroniqueur au journal Le Figaro et comme écrivain. Il connaît son premier succès en 1862-1865 avec La Dernière Idole, pièce de théâtre montée à l'Odéon et écrite en collaboration avec Ernest Manuel, pseudonyme d'Ernest Lépine.
Après avoir voyagé en Provence, Daudet débute avec Paul Arène l'écriture des premiers textes des Lettres de Montmoulin. Le journal événement les publiera comme feuilleton pendant tout l'été de l'année 1866, sous le titre de Chronique provençale. Certains de ses récits, des Lettres de Montmoulin, sont restés parmi les histoires les plus populaires de la littérature française, comme La chèvre de M. Seguin et Trois messes basses, ou L'élixir du révérend Père Gaucher. Le 29 janvier 1867, il épouse la jeune poétesse Julia Allard. Ensemble, Ils auront 3 enfants. Julia devient sa collaboratrice. Avec Paul Arène, il participe au Parnassiculé contemporain. Le premier vrai roman d'Alphonse Daudet, Le Petit Chose, histoire d'un enfant, que l'auteur lui-même qualifie de sorte d'autobiographie, est écrit en 1868. En 1874, Alphonse décide d'écrire des romans de mœurs, dont l'un d'entre eux recevra le prix de Jouy de l'Académie française, consacrant l'essentiel de son œuvre au roman et au théâtre. Il est l'auteur de 17 pièces. Il ne délaisse pas pour autant son travail de conteur. En 1872, il publie « Aventure prodigieuse de Tartarin de Tarascon », dont le personnage est devenu mythique. « Conte du lundi », 1873, un recueil de contes souvent poignants sur la guerre franco-allemande de 1870, témoigne aussi de son goût pour ce genre et pour les récits merveilleux. Alphonse Daudet, présenté souvent comme l'archétype de l'écrivain provençal, a pourtant passé moins d'une année de sa vie à Fonvielle. Il n'a jamais habité le moulin que visitent les touristes, ce qui n'empêche pas les lettres de Montmoulin de témoigner d'une remarquable connaissance de la Provence. En 1878, Daudet subit les premières atteintes d'une maladie incurable de la moelle épinière. Presque un an, jour pour jour, après la mort de son ami Paul Arène, le 16 décembre 1897, il est enterré au cimetière du Père Lachaise, à Paris, où Émile Zola prononcera son oraison funèbre.
Installation. Ce sont les lapins qui ont été étonnés. Depuis si longtemps qu'ils voyaient la porte du moulin fermée, les murs et la plateforme envahis par les herbes, ils avaient fini par croire que la race des meuniers était éteinte, et trouvant la place bonne, ils en avaient fait quelque chose comme un quartier général, un centre d'opération stratégique, le moulin de Gemap des lapins. La nuit de mon arrivée, il y en avait bien, sans mentir, une vingtaine, assis en rond sur la plateforme, en train de se chauffer les pattes à un rayon de lune. Le temps d'entourouvrir une lucarne, frotte. Voilà le bivouac en déroute et tous ces petits dernières blancs qui détalent la queue en l'air dans le fourré. J'espère bien qu'ils reviendront. Quelques-uns de très étonnés en me voyant, c'est le locataire du premier. Un vieux hibou sinistre, à tête de penseur, qui habite le moulin depuis plus de 20 ans. Je l'ai trouvé dans la chambre du haut, immobile et droit sur l'arbre de couche au milieu du plâtras des tuiles tombées. Il m'a regardé un moment avec son œil rond, puis tout effaré de ne pas me reconnaître, il s'est mis à faire « ouh, ouh » et à secouer péniblement ses ailes grises de poussière. Ces diables de penseurs, ça ne se brosse jamais. N'importe, tel qu'il est, avec ses yeux clignotants et sa mine renfrognée, ce locataire silencieux me plaît encore mieux qu'un autre, et je me suis empressée de lui renouveler son bail. Il garde, comme dans le passé, tout le haut du moulin, avec une entrée par le toit. Moi, je me réserve la pièce du bas, une petite pièce blanchie à la chaux, basse et voûtée, comme un réfectoire de couvent. C'est de là que je vous écris, ma porte grande ouverte au bon soleil.
Un joli bois de pin, tout étincelant de lumière, dégringole devant moi, jusqu'au bas de la côte. À l'horizon, les impies découpent leurs crêtes, fines. Pas de bruit. À peine de loin en loin, un son de fifre. Un courlis dans les lavandes. Un gros lot de mules sur la route. Tout ce beau paysage provençal ne vit que par la lumière. Et maintenant, comment voulez-vous que je le regrette, votre Paris bruyant et noir? Je suis si bien dans mon moulin. C'est si bien le coin que je cherchais. Un petit coin parfumé et chaud, à mille lieues des journaux, des fiacres, du brouillard. Et que de jolies choses autour de moi, il y a. À peine 8 jours que je suis installé. J'ai déjà la tête bourrée d'impressions et de souvenirs. Tenez, pas plus tard qu'hier soir, j'ai assisté à la rentrée des troupeaux dans un mas qui est au bas de la côte. Et je vous jure que je ne donnerai pas ce spectacle pour toutes les premières que vous avez eues à Paris cette semaine. Jugez plutôt.
Il faut dire qu'en Provence, c'est l'usage, quand viennent les chaleurs, d'envoyer le bétail dans les Alpes. Bêtes et gens passent 5 à 6 mois là-haut, logés à la belle étoile, dans l'herbe jusqu'au ventre. Puis au premier frisson de l'automne, on redescend aux masses et l'on revient brouter bourgeoisement les petites collines grises que parfume le romarin. Donc, hier soir, le troupeau rentrait. Depuis le matin, le portail attendait, ouvert à 2 battants. Les bergeries étaient pleines de paille fraîche. D'heure en heure, on se disait « Maintenant, ils sont à Aiguières, maintenant au Paradou. » Puis tout à coup, vers le soir, un grand cri « Les voilà !» Et là-bas, au loin, nous voyons le troupeau s'avancer dans une gloire de poussière. Toute la route semble marcher avec lui. Les vieux béliers viennent d'abord, la corne en avant, l'air sauvage. Derrière eux, le gros des moutons. Les mères un peu lasses, leurs nourrissons dans les pattes, les mules à pompons rouges portant dans des paniers les agnelets d'un jour qu'elles bercent en marchant, puis les chiens, tout suants, avec des langues jusqu'à terre, et 2 grands coquins de berger drapés dans des manteaux de cadis roux qui leur tombent sur les talons comme des chapes.
Tout cela défile devant nous, joyeusement, s'engouffre sous le portail, en piétinant avec un bruit d'averse. Il faut voir qu'elle et moi dans la maison, du haut de leur perchoir, les gros pans, verts et or, à crête de tulle, ont reconnu les arrivants et les accueillent avec un formidable coup de trompette. Le poulailler, qui s'endormait, se réveille en sursaut. Tout le monde est sur le pied. Pigeons, canards, dindons, pintades. La basse cour est comme folle. Les poulets parlent de passer la nuit. On dirait que chaque mouton a rapporté dans sa laine, avec un parfum d'Alpes sauvages, un peu de cet air vif des montagnes qui grise et qui fait danser. C'est au milieu de tout ce train que le troupeau gagne son gîte. Rien de charmant comme cette installation. Les vieux béliers s'attendrissent en renvoyant leur crèche. Les agneaux, les tout-petits, ceux qui sont nés dans le voyage et n'ont jamais vu la ferme regardent autour d'eux avec étonnement.
Mais le plus touchant encore, ce sont les chiens, ces braves chiens de berger, tout affairés après leur bête et ne voyant qu'elles dans le mas. Le chien de garde a beau les appeler du fond de sa niche. Le seau du puits tout plein d'eau fraîche a beau leur faire signe. Ils ne veulent rien voir, rien entendre, avant que le bétail soit rentré. Le gros loquet poussé sur la petite porte à claire-voie et les bergers attablés dans la salle basse. Alors seulement, ils consentent à gagner le chenil. Et là, tout en lapant leur écuelle de soupe, ils racontent à leurs camarades de la ferme ce qu'ils ont fait là-haut dans la montagne. Un pays noir où il y a des loups et de grandes digitales de pourpre pleines de rosée jusqu'au bord.
Peace.
sous-préfet aux champs. Monsieur le sous-préfet est en tournée. Cocher devant, laquais derrière, la calèche de la sous-préfecture l'emporte majestueusement au concours régional de la Conte des Fées. Pour cette journée mémorable, monsieur le sous-préfet a mis son bel habit brodé, son petit claque, sa culotte collante à bandes d'argent et son épée de gala à poignée de nacre. Sur les genoux repose une grande serviette en chagrin gaufré, qu'il regarde tristement. Monsieur le sous-préfet regarde tristement sa serviette en chagrin gaufré. Il songe au fameux discours qu'il va falloir prononcer tout à l'heure devant les habitants de la Combe aux Fées. Messieurs et chers administrés, mais il a beau tortiller la soie blonde de ses favoris et répéter 20 fois de suite « Messieurs et chers administrés, la suite du discours ne vient pas. La suite du discours ne vient pas. Il fait si chaud dans cette calèche. À perte de vue, la route de la Combe aux Fées poudroie sous le soleil du midi. L'air est embrasé. Et sur les ormeaux du bord du chemin, tout couverts de poussière blanche, des milliers de cigales se répandent d'un arbre à l'autre. Tout à coup, monsieur le sous-préfet tressaille. Là-bas, au pied d'un coteau, il vient d'apercevoir un petit bois de chêne vert qui semble lui faire signe.
Le petit bois de chêne vert semble lui faire signe. Venez donc par ici, monsieur le sous-préfet, pour composer votre discours. Vous serez bien mieux sous mes arbres. Monsieur le sous-préfet est séduit. Il saute à bas de sa calèche et dit à ses gens de l'attendre, qu'il va composer son discours dans le petit bois de chêne vert. Dans le petit bois de chêne vert, il y a des oiseaux, des violettes et des sources sous l'herbe fine. Quand ils ont aperçu monsieur le sous-préfet avec sa belle culotte et sa serviette en chagrin gaufré, les oiseaux ont eu peur et se sont arrêtés de chanter. Les sources n'ont plus osé faire de bruit et les violettes se sont cachées dans le gazon. Tout ce petit monde-là n'avait jamais vu de sous-préfet et se demande à voix basse quel est ce beau seigneur qui se promène en culotte d'argent. À voix basse, sous la feuillée, on se demande quel est ce beau seigneur en culotte d'argent. Pendant ce temps-là, monsieur le sous-préfet, ravi du silence et de la fraîcheur du bois, relève les pans de son habit, pose son claque sur l'herbe et s'assied dans la mousse au pied d'un jeune chêne. Puis il ouvre sur ses genoux sa grande serviette en chagrin gaufré et tire une large feuille de papier ministre. « C'est un artiste !» dit la fauvette. « Non, dit le Brouvreuil, ce n'est pas un artiste, puisqu'il a une culotte en argent. C'est plutôt un prince. »«
C'est plutôt un prince, dit le Brouvreuil. Ni un artiste, ni un prince, interrompu un vieux rossignol qui a chanté toute une saison dans les jardins de la sous-préfecture. Je sais ce que c'est. C'est un sous-préfet. » Et tout le petit bois va chuchotant. « C'est un sous-préfet. C'est un sous-préfet. » « Comme il est chauve, remarque une alouette à grande huppe. Les violettes demandent « Est-ce que c'est méchant ?»« Est-ce que c'est méchant ?» demandent les violettes. Le vieux rossignol répond « Pas du tout !» Et sur cette assurance, les oiseaux se remettent à chanter. Les sources à courir, les violettes à embaumer. Comme si le monsieur n'était pas là. Impassible, au milieu de tout ce joli tapage, monsieur le sous-préfet invoque dans son cœur la muse des comices agricoles. Et le crayon levé commence à déclamer de sa voix de cérémonie « Messieurs et chers administrés !»«
Messieurs et chers administrés !» dit le sous-préfet de sa voix de cérémonie. Un éclat de rire l'interrompt. Il se retourne et ne voit rien qu'un gros pivert qui le regarde en riant, perché sur son claque. Le sous-préfet hausse les épaules et veut continuer son discours. Mais le pivert l'interrompt encore et lui crie de loin « À quoi bon ?»« Comment à quoi bon ?» dit le sous-préfet qui devient tout rouge et chassant d'un geste cette bête effrontée, il reprend de plus belle « Messieurs et chers administrés !»« Messieurs et chers administrés, a repris le sous-préfet de plus belle. Mais alors, voilà les petites violettes qui se haussent vers lui sur le bout de leur tige et qui lui disent doucement « Monsieur le sous-préfet, sentez-vous comme nous sentons bon ?» Et les sources lui font sous la mousse une musique divine. Et dans les branches, au-dessus de sa tête, des tas de fauvettes viennent lui chanter leurs plus beaux airs. Et le tout petit bois conspire pour l'empêcher de composer son discours.
Tout le petit bois conspire pour l'empêcher de composer son discours. Monsieur le sous-préfet, grisé de parfum, ivre de musique, essaye vainement de résister au nouveau charme qui l'envahit. Il s'accoude sur l'herbe, dégrafe son bel habit, balbutie encore deux ou trois fois « Messieurs et chers administrés, messieurs et chers admis, messieurs et chers... » Ah, puis il envoie les administrés au diable. Et la muse des commissaires agricoles n'a plus qu'à se voiler la face. Voile-toi la face, ô muse des commissaires agricoles. Lorsque, au bout d'une heure, les gens de la sous-préfecture, inquiets de leur maître, sont entrés dans le petit bois et ont vu un spectacle qui les a fait reculer d'horreur. Monsieur le sous-préfet était couché sur le ventre, dans l'herbe débraillée, comme un bohème. Il avait mis son habit bas, et tout en mâchonnant des violettes, monsieur le sous-préfet faisait des vers.
Voilà, nous allons laisser monsieur le sous-préfet dans les sous-bois à faire des vers. Et Jean-Paul et moi, nous allons nous retirer délicatement et vous dire au revoir.
Au revoir.
Mois prochain. Et
bien littérairement votre.